nous sommes là pour demander une seule filiation, la filiation père et mère.
L'union d'un homme et d'une femme, c'est le seul moyen pour qu'il puisse y avoir des enfants, qu'on puisse les accueillir et les éduquer.
Je tiens beaucoup à ce que les enfants aient un père et une mère. C'est une valeur sacrée.
Depuis le vote de la loi sur le mariage pour tous, le slogan « un papa, une maman » est devenu la bannière des opposants à l'égalité des droits. Selon eux, une famille se doit d'être composée d'un papa et d'une maman, seule configuration à pouvoir élever correctement des enfants, par opposition évidemment aux couples de même sexe. Mais cette structure du noyau familial, un papa plus une maman, un homme et une femme, tous deux engagés également dans l'éducation d'une progéniture biologique, de quand date-t-elle? Est-elle l'alpha et l'oméga, la seule et unique façon de fonder une famille? Qu'en disent l'histoire et l'anthropologie? Bonjour, Judith Lalande.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue de l'enfance, professeur des universités en sciences de l'éducation à l'université de Caen, Normandie. Alors, est-ce qu'un papa et une maman, il n'y a rien de mieux pour un enfant?
Bah, disons que ce qu'il faut à un enfant, c'est forcément de l'amour, de l'affection, et puis un cadre pour pouvoir être éduqué, grandir et finalement s'insérer dans la société. Ça, c'est sûr.
La question, c'est qu'on a beaucoup entendu que ce noyau familial, finalement, un papa plus une maman, était soit vraiment, ce que je disais à l'instant, l'alpha et l'oméga, soit au contraire, à l'inverse, finalement, une structure, une construction sociale assez récente. Qu'en est-il ?
Ce qui est sûr, c'est que toute société a sa manière de concevoir la chose et que ce qu'on constate, c'est qu'il y a forcément une norme sociale. Donc ce qui est important, c'est de considérer cette norme, mais on s'aperçoit que dans le temps et dans l'espace, cette norme varie beaucoup.
La norme sociale, donc, aujourd'hui, c'est celle-là, mais est-ce qu'elle est encore d'actualité, un papa et une maman? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'unique norme sociale qui constitue le tissu de nos sociétés, disons, occidentales?
On s'aperçoit que finalement, la norme s'élargit. On avait cette norme-là qui était une norme forte, et c'était en gros la norme unique. Mais aujourd'hui, on a un élargissement des normes possibles, des modèles sociaux, et donc de ce qui est accepté socialement.
La place du père dans l'éducation des enfants, la place du père dans ce noyau familial, elle remonte à quand, Judith Lalande?
Curieusement, on s'aperçoit qu'au Moyen-Âge, elle avait déjà une importance. Évidemment, ça, c'est pas mes travaux, c'est les travaux de Didier Lett, un historien du Moyen-Âge qui a travaillé là-dessus et qui, justement, a remis un petit peu en question ce que disait un autre historien, Philippe Ariès, très connu pour son ouvrage sur l'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime. Et il a montré qu'en fait, dès le Moyen-Âge, il y avait un sentiment d'enfance, c'est-à-dire le fait que les enfants étaient considérés comme des êtres particuliers et que les pères avaient déjà un rôle affectif auprès des enfants et étaient peinés, par exemple, quand l'enfant mourait, puisqu'au Moyen-Âge, il y avait une forte mortalité infantile. Donc oui, il y a bien une attestation de ce rôle du père dans l'histoire.
Dans l'histoire au Moyen-Âge et par la suite, on a beaucoup dit, on a beaucoup lu que finalement, l'implication du père dans l'éducation des enfants, quel que soit le sexe de l'enfant, hein, puisque c'est différentes fonctions que l'enfant soit un garçon ou une fille, c'est quelque chose de très récent qui remonte à au mieux au début du XXe siècle, voire carrément aux années 70. Qu'en pensez-vous, Julien?
C'est-à-dire qu'on avait dans la culture française traditionnelle une communauté qui s'occupait de cet enfant. Donc il y avait évidemment ce noyau familial, cette famille nucléaire, mais l'enfant était élevé, comme dans beaucoup de sociétés traditionnelles, par la communauté, c'est-à-dire par le village, etc., en fonction du lieu où on vivait.
Pas uniquement par les mères ou les grands-mères?
Pas uniquement par la famille même, pas uniquement par la famille, c'est-à-dire pas uniquement par les mères, par les pères, les grands-parents, les frères et sœurs qui avaient ce rôle aussi important, les aînés, mais aussi par le village, c'est-à-dire le voisin, etc., l'enfant qu'on envoyait en apprentissage, ou plus avant dans l'histoire, les nourrices, le fait qu'on envoyait les enfants en nourrice, au XVIIIe siècle par exemple, cette mise en nourrice était un phénomène très courant. Dans l'histoire, les choses ont changé au fur et à mesure des siècles, et ça montre bien qu'il y a toujours une transformation finalement des normes en fonction de ce qu'on pense être bon pour l'enfant. Ce qui est bon pour l'enfant, c'est quelque chose de relatif, précisément, qui change donc selon les siècles et les cultures.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer aujourd'hui que, limiter en tout cas, l'importance du seul noyau familial dans l'éducation d'un enfant, c'est quelque chose de beaucoup plus large, les références sont distinctes, plus vastes que le seul père et la mère.
Oui, tout à fait. De toute façon, dans notre société, on s'aperçoit bien que dès que l'enfant est petit, on le confie à une assistante maternelle, on le confie à la crèche, on le confie à l'école. Donc on ne peut pas dire que ce soit seulement les parents, évidemment, qui éduquent cet enfant et qui en font un être social. Même aujourd'hui, on voit bien que la communauté, hein, mais là dans le sens des institutions qu'on a mises en place, s'occupe de cette éducation des enfants. Donc en aucun cas, aujourd'hui non plus, l'enfant ne dépend que de son père et de sa mère pour son éducation.
Que nous disent à ce propos l'ethnologie et l'anthropologie sur la diversité des modèles ou des noyaux familiaux dans d'autres sociétés que les seuls modèles occidentaux ?
Déjà, j'allais dire que ça dépend du modèle de parenté. Hein, c'est-à-dire qu'on a les filiations patrilinéaires, matrilinéaires, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais donc finalement, un enfant, plus que d'appartenir à ses parents, il appartient à sa lignée ou à son lignage. Autrement dit, en relation avec des ancêtres ou avec un ancêtre. Voilà. Et donc ensuite, ceux qui vont l'éduquer vont dépendre de ce système justement de parenté. Donc tout cela est encore une fois relatif à un système culturel en place à un moment donné.
Vous avez quelques exemples ?
En Afrique de l'Ouest, Suzanne Lannemann a travaillé, donc une africaniste anthropologue, a montré que dans beaucoup de familles, l'oncle maternel a un rôle important.
Le frère de la mère.
Voilà, précisément. Et donc, ça correspond aussi justement à cette structure lignagère qui donne ce rôle particulier à cet oncle, à la limite d'une manière aussi importante que le père géniteur. Donc on peut avoir ce cas de figure, par exemple.
Vous me disiez également qu'il y a des sociétés qui se réorganisent et qui trouvent des méthodes d'organisation sociale très particulières dans des cas, par exemple, de stérilité maternelle. Quand dans un couple, la femme ne peut pas avoir d'enfant, et bien d'un seul coup, il y a des recompositions assez surprenantes.
Exactement. Alors ça, c'est un exemple qu'avait étudié l'anthropologue Evans Pritchard, qui avait travaillé dans les années 1930 sur les Nuers, donc au Soudan, et qui avait observé que dans le cas d'un couple stérile, ils avaient trouvé une solution assez étonnante à nos yeux, c'est-à-dire que le couple se séparait et que la femme qui était censée être celle qui était la cause de cette stérilité allait se marier avec une femme. Alors là, vous allez me dire, ça ne va pas s'arranger.
Non, mais en tout cas pour avoir des enfants, ensuite ça peut s'arranger
ça.
Pour d'autres choses. Mais...
C'est ça. Et cette femme avec qui elle se mariait allait avoir une relation sexuelle avec un autre homme, et donc allait finalement être enceinte. Et donc la femme, supposée être stérile, allait jouer le rôle de l'homme dans ce couple, et allait donc, auprès de la communauté et auprès de cet enfant, jouer le rôle de l'homme. Donc on avait donc un mariage entre deux femmes qui supposait pas de relation homosexuelle, de relation sexuelle, mais simplement où les rôles sociaux étaient donc quelque chose de tout à fait distinct finalement. Voilà, donc on a le rôle social d'une part et puis la vie sexuelle qui peuvent être aussi deux choses séparées, dans ce cas-là en tout cas.
À propos de normes sociales, j'aimerais que vous nous disiez un mot aussi de cette évolution, de ce tournant des années 60-70 avec la réaffirmation importante du rôle du père directement impliqués dans l'éducation.
Alors, ce qu'on a surtout, c'est la loi du 4 juin 1970, où, au contraire, la puissance paternelle, donc le fait que le père avait autorité sur femme et enfant, se transforme en autorité parentale, c'est-à-dire le fait que mère également, et pas seulement le père, vont avoir autorité sur l'enfant pour l'éduquer, finalement. Donc là, c'est un nouveau modèle social, finalement, qui donne une nouvelle autorité à la mère et qui, finalement, affirme une égalité entre les deux dans le rôle d'éducation des enfants.
C'est-à-dire que, pour conclure, Julie Delalande, au regard de vos travaux en anthropologie, en sociologie, finalement, limiter les référents pour un enfant au père et à la mère, ça n'a pas vraiment de sens.
Oui, tout à fait. Et on a toujours une communauté beaucoup plus large qui s'occupe de l'éducation des enfants. Moi, j'ai travaillé plus précisément sur le groupe d'âge, et donc sur le fait que entre les enfants, parfois dans une différence d'âge, les plus aînés s'occupant des plus jeunes, mais même dans notre société, les enfants, au sein de la cour de récréation, puisque c'est mon objet d'étude finalement, eh bien ils s'éduquent, ils se socialisent aussi entre eux. Donc cette socialisation de l'enfant ne dépend pas seulement de ses parents, mais d'autres adultes et également du groupe de pères.
Et sur la question des référents masculins et féminins, qui était l'un des nœuds gordiens du problème soulevé par les partisans de ce qu'on appelait la manif pour tous, aujourd'hui dans la société par rapport à l'évolution des normes sociales? Vous diriez qu'il est plus facile, qu'il est plus accepté aujourd'hui qu'un enfant puisse être éduqué, élevé par deux parents de même sexe, ou est-ce que ça reste toujours un problème qu'il faut tâcher de résoudre?
On s'aperçoit que la norme s'élargit effectivement et qu'il y a une tolérance plus grande et une acceptation plus facile, hein, je veux dire, dans les années 80, ce qui était compliqué, c'était d'être d'enfants séparés, hein, voilà. Cette chose-là, maintenant, a l'air d'être relativement bien acceptée, donc ça veut dire que les enfants de parents séparés ne souffrent plus de l'image sociale, hein, du fait d'être dans ce genre de famille. De la même manière, voilà, il se peut que, assez rapidement, le fait d'être un enfant de deux parents du même sexe, petit à petit, rentre dans une norme acceptée.
Merci beaucoup Julie Delalande. Je rappelle que vous êtes anthropologue de l'enfance, professeure des universités en sciences de l'éducation à l'université de Caen-Normandie.
Merci.
Les idées claires par Nicolas Martin. À retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.